Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés en cette semaine bien chaude, bien ensoleillée qu'on a attendue de nos voeux, donc maintenant on ne peut pas râler.
Non.
Voilà. Alors aujourd'hui, on va entreprendre de vous faire un petit peu une leçon qui est moins dans l'air du temps qu'elle n'est une réflexion globale sur à la fois la construction de portefeuille. Et quand on parle chez nous de construction de portefeuille, on en parle du côté de la construction d'une épargne longue. C'est-à-dire, certaines personnes pensent à la bourse comme une façon de faire de l'argent rapidement, de prendre des positions sur des valeurs. Chez nous, à l'Université de l'Épargne et dans nos émissions que nous faisons envers le public plus large que vous êtes, c'est un peu une réflexion globale macroéconomique qui nous amène à des réflexions ensuite sur la construction de portefeuille. Et parmi celles-là, il y a une réflexion toujours chez Charles qui est une réflexion de monétariste, c'est-à-dire de se poser la question déjà en amont des fonctions de la monnaie. Qu'on retrouve toujours, qui sont tierces. Vous avez une unité de mesure de la valeur, c'est-à-dire qu'à un instant T, vous vous dites, eh bien, très bien, plutôt que de dire, ce livre vaut 4 miches de pain, on va passer par une unité de valeur qui est de dire, voilà, ce livre va coûter 8 euros, qui vaut 4 miches de pain à 2 euros. C'est quand même plus simple d'avoir cette unité de valeur.
Ça évite le troc.
Ça évite le troc qui avait lieu autrefois, mais qui quand même repose sur le fait que si vous voulez acheter ce livre, vous devez avoir 4 miches de pain, ce qui n'est pas forcément pratique pour tout le monde.
Et puis l'écrivain, il ne sera peut-être pas très content de recevoir 4 miches de
4
pain.
4 miches de pain par ailleurs. Donc après,
qu'est-ce qu'il en fera des miches de pain?
Voilà, ça l'en fait 4, il faut une grosse famille. Donc vous avez ensuite l'autre valeur de la monnaie, l'autre fonction de la monnaie, qui est un moyen d'échange, encore une fois, qu'on vient de voir, et la réserve de valeur dans le temps. Vous vous dites, je vais mettre de côté, comme ça, ça me permet plutôt que d'avoir des miches de pain qui s'accumulent, de pouvoir acheter une voiture à terme avec cet argent que je vais
ou
stocker.
Plein de miches de pain au fur et à mesure que j'en aurai besoin.
Voilà.
Parce que sinon, j'aurai que du pain rassis. Hein.
C'est quand même plus pratique pour étaler dans le temps. Et de la même façon, à côté de ce système monétaire, vous avez ensuite un autre système, une autre fonction qui est les systèmes de production, les systèmes financiers et les systèmes monétaires. C'est-à-dire que vous avez votre monnaie et conjointement, vous avez ces trois systèmes.
Ces trois systèmes. Alors là, je voudrais dire quelque chose dont les gens sont peut-être rendus compte en nous écoutant, c'est que la recherche, ça s'arrête jamais.
Non, bien. En même temps, c'est agréable parce que ça veut dire qu'on apprend toute sa vie.
On apprend toute sa vie.
Ce qui est logique puisque le monde change.
Le monde change. Et puis, parce qu'on pénètre mieux, on comprend mieux, etc. Donc, la recherche, ça ne s'arrête jamais. Et alors, il y a quelque temps, j'ai rencontré un homme qui s'appelait M. Krob, qui est. Je l'ai interviewé, là. Ça fait une vingtaine de milliers de vues, ce qui n'est pas du tout assez, d'ailleurs. Parce que c'est un homme tout à fait éminent. Est-ce que. Et lui, c'est un spécialiste des systèmes compliqués, tu vois, des trucs qui bougent dans... Bref. Et alors, il m'expliquait que je réfléchissais en termes de système. Alors, ce que je ne savais pas, j'étais comme Monsieur Jourdain, vous savez, je faisais...
Oui, des vers sans en avoir l'air.
Oui, je ne savais pas, j'étais très content de savoir ça, mais il a expliqué ça, j'étais très, très flatté, mais aussi, il m'a expliqué quelque chose que j'ai trouvé absolument fascinant. C'est que dans la nature, dans la vie, etc., il y a des systèmes stables et des systèmes instables. Et donc, je me suis dit, tiens donc, il faut peut-être réfléchir en fonction dans la construction de portefeuille. Vous me direz, ça fait jamais 40 ans que je suis dessus, j'aurais peut-être pu le trouver avant. Est-ce que le système est stable ou instable? Et c'est une question extraordinairement importante parce que tu n'investis pas de l'argent dans un système stable comme dans un système instable.
Voilà. Et alors, l'idée, c'est que lorsque la monnaie qu'on vient de voir est stable, ça vous donne un système stable.
Stable, un système d'investissement stable, le système économique est stable, etc. Et lorsque la monnaie devient instable, à ce moment-là, il se passe toute une série de faits que... Plus personne, une chatte, il ne retrouverait pas ses petits, tu vois, ça devient très... Et à ce moment-là, il faut investir de façon complètement différente. Donc, je me suis penché là-dessus depuis quelques temps et je continue à réfléchir. Et ça m'intéresse beaucoup parce que ben, ce n'est pas une réflexion que la plupart des gens font, quoi.
Voilà. Et donc, c'est un peu ce que tu avais essayé de voir
oui.
dans ce livre qui est The General Theory of Portfolio Construction, qui en lui-même était un spin-off de celui-là. Mais celui-là, il est beaucoup plus velu. Alors, celui-là, on entreprend en ce moment de le traduire, donc vous l'aurez. Et c'est un peu le jus de crâne de la construction d'un portfolio, voilà. d'un portefeuille, avec cette logique de penser les éléments extérieurs que sont la macroéconomie, que sont...
la monnaie.
Voilà.
Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'est-ce que c'est un système stable ? Eh bien, d'après les travaux que j'ai faits, puis les réflexions et tout, c'est un système, dans le fond, dans lequel la réserve de valeur est assurée par la monnaie. Tu vois ce que je veux dire ? Tu te dis, bon, reprends, je vois, si tu as les obligations françaises dans les années 90 qui te donnaient du 9 ou 10%, bah, c'était une bonne réserve de valeur, tu vois,
alors,
c'était
en fait,
stable.
Toi, quand tu as commencé ta carrière dans les années 70...
On était dans un système instable.
Alors, tu as commencé ta carrière en 1971, et à l'époque, le système financier était stable. La plupart des grandes devises étaient indexées sur le dollar américain,
Absolument.
Qui était lui-même indexé sur l'or.
Donc c'était stable.
Donc, en réalité, l'or, encore une fois, un peu comme aujourd'hui, pour des raisons différentes, on va y arriver, servait d'étalon de valeur.
C'est-à-dire,
d'ancrage.
C'est-à-dire, on disait d'étalon de valeur, ça servait d'ancrage, et surtout, ça disait, bon, ben, comme il y a une quantité limitée d'or, la Banque Centrale Américaine, qui contrôlait les autres monnaies, puisque toutes les autres monnaies étaient stables vis-à-vis du dollar, et l'or, et le dollar était stable vis-à-vis de l'or. Donc tu disais, ça me donne une espèce de double verrouillage, tu vois, j'étais content. Et puis ça saute. Et à ce moment-là, tu rentres dans un système instable.
Alors, rappelons ce qui s'est passé le 15 août 71. Donc le président
Nixon a décidé de dire, je rembourse plus la dette des États-Unis en or si vous le demandez.
Je vous rembourse
mon or et puis démerdez-vous.
Et donc, ils ont essayé pendant un temps de faire des sortes d'accords qui s'appelaient les accords Smithsonian.
Mais ça n'a pas tenu.
Ça n'a pas tenu pour dire, bon, on va essayer de conserver.
Et oui, ça n'a pas tenu parce que ça voulait dire que les États-Unis ne voulaient plus suivre une discipline. Quand ils ne voulaient plus suivre une discipline, rien ne pouvait marcher.
Et donc, à partir de 73, les devises se sont retrouvées sans point d'ancrage, à ce moment-là dans l'histoire, et là, c'est parti en dig-dig.
Ah, mais complètement. C'est-à-dire qu'il faut savoir, pour ceux qui le savent, que passer d'un système stable à un système instable, bah, les marchés des actions, par exemple, de début 73 à fin 74, ont baissé entre 75 et 90% en termes réels. Voilà. Ça a été un bain de sang, quoi.
Et... avant 71, les investisseurs donc s'accordaient largement à considérer que l'actif sans risque par essence était l'obligation d'État
américaine.
Et d'un coup, en réalité, à partir du moment où il n'y avait plus cet ancrage sur l'or, les gens ont commencé à réfléchir un petit peu différemment autour des obligations d'État.
Mais voilà, mais ils se sont dit, mais attendez une seconde là, si l'État est en déficit et si l'État imprime de l'argent comme Agoré, si je mets mon épargne dans un machin qui est imprimé librement, c'est comme d'avoir des diplômes. Tu sais, quand 95% des gens ont des diplômes, la valeur du diplôme baisse.
Comme on voit en ce moment en France. Et alors, c'est assez intéressant parce que si on regarde, si vous avez envie de regarder dans les sources d'informations qui permettent de le faire, l'indexation des obligations d'État américaines longues et anglaises, il y avait une corrélation à plus ou moins 6%, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de retour à la moyenne.
C'est-à-dire que un système monétaire stable, c'est à partir du moment où tu as quelque chose qui est une réserve de valeur certaine, tu peux te dire que tous les actifs vont se bouger contre cette valeur certaine, mais autour d'une horizontale.
Voilà, donc ça va faire comme une espèce de serpent.
Il y a une serpent, ça bouge. À un moment, il faut acheter les obligations britanniques. De temps en temps, il faut les vendre, puis il faut les acheter, puis il faut les vendre.
Et donc, à plus ou moins, c'est-à-dire autour de votre médiane, ça va.
Si c'était trop cher, l'obligation britannique, tu la vendais, tu achetais l'obligation américaine, et puis quelques temps, tu faisais le contraire.
Arrive 73, le graphique se coupe, et là, d'un coup, pouf! Décorrélation absolument totale.
Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que le gars qui a acheté une obligation britannique, qui a vendu une obligation britannique pour acheter une obligation américaine ou le contraire, il se retrouve en culotte courte. Il perd tout ce qu'il veut parce que d'un seul coup.
Et la donc la fracture, système d'un système
stable. Un système instable.
Et là, l'investisseur que vous êtes, que nous sommes, doit se poser la question, aussi, si vous vous retrouvez en 73 et que vous avez joué les règles de l'ancien temps...
Vous êtes cuit.
Vous êtes cuit. Vous êtes fritasse comme une ananas. Et voilà. Parce que vous n'avez pas anticipé le temps présent.
Vous n'avez pas compris qu'on passait d'un système stable à un système instable. Et ça, c'est un... Et donc, moi, c'est là où j'ai commencé à réfléchir sur les marchés, parce que... Et ça, je continue à apprendre, comme je viens de le dire. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de développer là-dessus. Vous savez, ce qu'on essaye de faire à l'Institut des Libertés, c'est que dans le fond, on a une société de recherche qui s'appelle GAFCAL. Hein. Et il y a des tas de gens qui sont très intelligents là-dedans, qui travaillent beaucoup. Et il y a de l'information qui remonte, mais elle est quand même facile à utiliser pour des gens qui sont dans ce métier depuis toujours. Nous, je considère que notre rôle à l'Université de l'Épargne et à l'Institut des Libertés, c'est de prendre la partie de cette information qui peut être expliquée à ceux qui nous écoutent sans qu'ils n'ont pas eu besoin de faire polytechnique. Tu vois, ou de, ils sont pas.
Et alors justement, c'est drôle parce que ce que tu dis, parce que effectivement, le fait que le système se soit désaxé et soit sorti de sa stabilité. C'était arrivé par le passé entre 1918 et 1945, mais encore une fois, on n'apprend jamais des erreurs de son père, mais des erreurs de son grand-père.
Absolument.
Et les investisseurs de la place avaient oublié, comme souvent ils le font. Et pourquoi c'est intéressant de le garder en tête? Parce que peut-être qu'aujourd'hui, la bulle sur l'IA, la bulle sur les semi-conducteurs, c'est aussi une erreur qu'on a oubliée du passé. Mais nous y reviendrons. Donc là, ce moment de décrochage d'un système stable à un système instable, les gens avaient oublié que ça s'était passé par le passé avec les guilds.
Oui.
Et qu'on était aussi arrivé à un moment où on était passé d'un système à l'autre. Alors, revenons là au moment où on passe en 73. On passe de ce système américain qui était un système donc ancré sur l'or, obligation
infinie,
d'État.
Oui.
Et d'un coup, c'est la Bundesbank qui devient le chevalier teutonique avec ton héros, Karl Otto Pöhl, qui
était le patron de la Bundesbank et qui dit, moi... Les Américains lui disent, ben non, les taux d'intérêt, c'est nous qui les déterminons parce qu'on est les champions. Et il dit rien du tout. Moi, la Bundesbank continuera à agir comme si c'était alors. C'est-à-dire que, si vous regardez, à ce moment-là, le Bund, l'obligation allemande, commence à avoir une performance meilleure que l'or.
Voilà.
C'est-à-dire déjà, qu'il remplace l'or.
Il donne du 3%. Donc, à partir du moment...
Du 3% réel, entre réel, 3 et 5%.
Oui, oui, voilà. À partir du moment où Karl Otto Pöhl s'affronte face à Jim Baker du Trésor américain pour lui dire « Pas du tout, nous, on va continuer à faire ce qu'on veut », à ce moment-là, on a une stabilité qui revient par le Bund.
C'est-à-dire que la Bundesbank...
Et l'or
remplace
décroît.
L'or.
Et l'or, à ce moment-là, décroît.
Et l'or passe de 800 à 200.
Donc, si vous n'aviez pas compris, encore une fois, revenons-y, ce qu'il était en train de se passer en analysant les tendances lourdes...
Vous auriez gardé de l'or.
Vous auriez gardé de l'or. Et pendant
20
ans...
Vous auriez perdu 75%.
Pendant 20 ans, l'or ne fait rien. Vous pouvez regarder.
Il baisse. Il passe de 800 à 200, pendant que les obligations passent de 10 à 100. C'est-à-dire que c'était le moment, il fallait vendre l'or et acheter des obligations. Et ça a marché pendant quasiment 40 ans, quoi.
Et donc là, on revient sur les obligations à un retour à la moyenne. L'or chute et les taux d'intérêt...
Baissent doucement, mais en restant positifs en termes réels. C'est-à-dire que l'inflation se casse la gueule. Ce qui se passe, si vous voulez, si on essaye de résumer ça, ce qui paraît un peu compliqué ce qu'on dit, mais je vais essayer d'expliquer, c'est qu'en 73, les Américains décident qui vont procéder à ce qu'on appelle l'euthanasie du rentier.
Ce qui est toujours ce qu'essaient de faire les banquiers centraux dans leur monde idéal de pangloss. C'est de dire, tiens, si...
Pas les Allemands. Parce
oui,
qu'il y en a
les, oui, pas les Allemands tant qu'on les a laissés faire.
Tant qu'on les a laissés faire. Donc, à ce moment-là, dès le moment où vous procédez à l'euthanasie du rentier, il ne faut plus avoir de contrat pour utiliser. Il ne faut avoir que des actifs, il ne faut avoir que de l'or et des actions, quoi, c'est tout. Donc ça a marché de 70 à peu près à 80. Et puis ensuite, de 80 à quasiment 2020, c'est-à-dire quasiment 40 ans, là, ça a été le Bund qui était là, qui faisait la discipline. Mais ce qui s'est passé en 2012, c'est que l'euro saute. Tu vois, il saute parce que c'est pas un truc qui aurait pu... Donc, pour faire survivre l'euro, Monsieur Draghi dit, je vais mettre les taux d'intérêt à zéro. C'est-à-dire qu'il tue la Bundesbank. Et donc... Monsieur Draghi, en 72, alors je veux dire en 2012, il dit ce qu'a dit Monsieur Nixon contre l'or. Tu vois, il annonce la fin d'une réserve de valeur qui était sûre, qui était stable et que les gens aimaient bien. Donc à ce moment-là, ben, qu'est-ce que j'ai fait moi? Mais c'est, à l'époque, c'était plus intuitif que j'avais pas encore réfléchi.
Que
raisonner. Tu vois, j'avais pas. Je dis, ben, il faut plus avoir d'obligations. Tu vois, il faut avoir que de l'or.
Donc revenons dans cette période qui va aller des années donc 80 à 2012. On se trouve dans un monde où le dollar américain reste l'étalon de valeur. Pourquoi ? Parce que malgré tout, il fixe le prix du pétrodollar.
Oui, oui.
Et les grandes transactions sont axées, on le sait, en dollar américain. Donc malgré tout, il reste la monnaie de réserve, ce qui a permis quand même aux États-Unis de continuer à jouir du privilège impérial, qui est celui du dollar, et ce qui leur a permis, pendant un temps, de conserver des excédents commerciaux, même si, à terme, ils se retrouvent aujourd'hui avec une dette beaucoup plus grande.
Alors, ça leur a permis tout ça, mais ce qui s'est passé, un phénomène curieux, que là aussi, les gens n'ont pas bien compris à l'époque, c'est que les États-Unis sont restés la monnaie de transaction. Tu te servais du dollar pour faire du commerce international.
Parce que tu étais obligé aussi.
Parce que tu étais obligé, en particulier pour le pétrole. Ça a été aussi... l'étalon de valeur, parce que tout le pétrole était en dollars, c'était obligé, sinon tu avais une espérance de vie assez raccourcie.
Comme M. Kadhafi l'a pris à ses dépens.
Oui, ou M. Saddam Hussein. Mais la fonction réserve de valeur était assurée par la Bundesbank.
Par la
Donc
tu avais
un drôle de système où c'était...
C'était un peu un monde à deux soleils, comme dans la guerre des étoiles.
Voilà.
Vous aviez deux soleils. Le soleil, quelque part, un peu les trading sardines et les eating
sardines.
Voilà,
les trading sardines, c'était le dollar, et les eating sardines, c'était le... Donc ça reste.
Mais c'était important en Europe, parce que... Malgré tout, avant qu'on ne rentre dans cette zone monétaire commune, la Bundesbank, elle, assurait la rentabilité avec ses 3%.
Elle était crédible. Moi, quand je ne savais pas quoi faire en tant que gérant dans mes aides, je ne savais pas faire, j'achetais des bunds. En me disant,
évidemment, plus mal logé. Mais effectivement, arrive la rentrée dans cette Europe monétaire avec le passage à l'euro. Il était certain, et tu l'avais écrit à l'époque dans des Lions Monnaie par des ânes, que des pays comme l'Italie, la Grèce, l'Espagne, la France ne pouvaient pas fonctionner
avec des taux réels à 3 ou 4
avec des taux réels à 3 ou 4%.
Mais non.
C'était évident.
Puisque leur taux de croissance était inférieur à 3 ou 4%.
Et. Ils l'avaient peut-être tous anticipé ou pas. On ne sait pas si M. Trichet avait véritablement eu cette vision.
Non, j'ai bien compris celui-là.
Voilà. Donc, Draghi, qui était quand même un banquier central, arrive et dit « Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va péter quelque part l'élément de mesure, le thermomètre qui était...
On va péter... Puisque la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal ne peuvent pas vivre avec 4% de taux réel, eh ben on va amener les taux réels à zéro. »
Voilà.
Et ben donc à ce moment-là, il n'y a plus de réserve de valeur et le système devient instable.
Et donc on repasse dans un système instable à ce moment-là et le marché boursier devient tout à coup en réalité le seul endroit où vous pouvez avoir une réserve de valeur. Mais on arrive à des prophéties autoréalisatrices, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on se trouve dans un monde où véritablement la bourse est celle qui donne la soi-disant réserve de valeur au temps, parce qu'elle donne une réserve de valeur au temps. Donc
alors,
c'est...
Vous savez que si vous achetez encore une fois des airs liquides, ça vaudra toujours quelque chose. Alors vous acceptez de la payer peut-être trop cher, parce que vous craignez que sur l'alternative, dans le temps, vous auriez acheté des obligations allemandes, mais ces obligations allemandes, elles vont peut-être aller à zéro. Tandis que l'air liquide n'ira jamais à zéro. Donc tu te retrouves dans un monde extraordinairement brutal et simplifié, où il n'y a plus d'instruments pour diversifier ton portefeuille, sauf l'or.
Voilà. Donc l'or devient d'un certain côté, par le dernier clou dans le cercueil de M. Draghi, la seule réserve de valeur possible, avec les actifs que vous pouvez avoir en bourse. Et le second pieu, quelque part, dans ce cercueil, a été la confiscation des avoirs russes, qui définitivement a remis en cause aussi le droit de propriété.
Absolument.
Et a fait qu'en réalité, on s'est dit aussi que l'Occident ne respectait véritablement plus rien, ce qui remet quelque part aussi en cause ce que pour certains était ABC, Anything But China, qui est de dire, mais finalement,
la Chine est arrivée en galop en ce moment-là en disant, dites les gars, si vous voulez une réserve de valeur qui fonctionne et si vous voulez des gens sérieux gérer la monnaie, Et du coup, les obligations longues chinoises, Dieu sait qu'on a parlé des obligations chinoises et qu'on ne l'a reproché, mais les obligations chinoises ont fait mieux depuis un an, deux ans, trois ans, cinq ans, vingt ans que toutes les autres obligations. C'est-à-dire que la Chine s'est dit, je vais prendre la place de la Bundesbank. On l'a écrit, je l'ai écrit avec ton frère, on l'a écrit je sais pas combien de fois, et les gens nous ont dit, vous êtes complètement fous, c'est pas une démocratie, ça n'a rien à voir. Si une démocratie fout en l'air sa monnaie, il vaut peut-être mieux avoir la monnaie d'un pays qui n'est pas démocratique, mais qui ne fout pas en l'air sa monnaie, tu vois, si t'es un géant, quoi. Parce que quelqu'un qui fout en l'air sa monnaie n'est plus une démocratie. C'est ce que j'essaye de dire aux gens, c'est-à-dire que vous m'expliquez que nous on est démocratie, que là-bas ils sont très méchants, mais si la démocratie c'est de piller le pauvre épargnant, c'est pas une démocratie.
Alors, avant d'étudier ce qui pourrait être devenu le nouveau point d'ancrage et à répondre en cela question par question, on va faire une brève conclusion sur cette première chapitre qui était, j'espère que tout le monde aura compris, la compréhension de ce que peut être un monde stable, la disruption et l'émergence d'un monde instable. Instable.
Et le moment où on passe de l'un à l'autre, ou de l'autre à l'un, est extraordinairement important, parce qu'à ce moment-là, ça change complètement la structure des portefeuilles.
Alors, qu'est-ce qu'on peut voir en conclusion de cette première partie ? C'est au cours des dernières années, on a assisté à une réparation des guerres suffisamment importante pour perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales. On l'a vu non seulement avec le Covid, on l'a vu avec la guerre en Ukraine, et on le voit maintenant avec le détroit d'Hormuz.
Alors, c'est vraiment important, parce que je discute souvent avec notre ami Xavier Rofer, qu'on a souvent reçu ici. Il me dit quand une monnaie disparaît, comme la livre sterling, etc., comme réserve de valeur, dans le commerce international, il y a toujours quelque chose qui réapparaît tout de suite, c'est la piraterie.
Oui.
Tu vois, c'est que, il n'y a plus le gars, en quelque sorte, le gendarme, l'absence du gendarme financier implique l'absence du gendarme, du vrai gendarme, celui qui fait régner l'ordre.
L'autre chose qui est une mauvaise nouvelle pour les marchés obligataires, c'est que on sait de longue date que la première victime dans une guerre, c'est les personnes civiles, et les secondes, c'est en général les obligations.
Les obligations. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, on peut dire ce qu'on veut, mais si l'État emprunte pour faire des centrales nucléaires et des barrages, la productivité va monter. Mais si l'État emprunte pour aller bombarder des gars, etc., ça fait assez peu monter la productivité. Donc automatiquement, la demande augmente parce qu'il faut faire des obus et tout, et l'offre de produits n'augmente pas, donc à ce moment-là, tu as de l'inflation, quoi. Les guerres sont naturellement inflationnistes.
Alors, autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que à partir du moment où un système monétaire où le prix du temps est fixe et manipulé, le marché obligataire ne fonctionne plus comme une réserve de valeur.
Non.
Donc, si la monnaie dominante, le dollar, au hasard, est impliquée dans une guerre, son marché obligataire devient obligatoirement un marché vendeur. Ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez les États-Unis, qui ont une grosse dette, on sait que son marché obligataire, le marché obligataire américain, est fragilisé. Qui va acheter des obligations ?
Et on sait surtout que je ne sais pas qui va les acheter, mais je sais qu'il va y en avoir de plus en plus à vendre. Tu vois ce que je veux dire ? Les déficits vont être monstrueux.
Si vous avez une vision, vous dites « Ok, this is going to
take up. » Si j'ai besoin d'acheter des obligations américaines, je vais en avoir. Il ne va pas y avoir de pénurie. Hein.
Donc, par défaut, si vous analysez encore une fois globalement, vous dites « L'or ne peut que devenir, encore une fois, une réserve de valeur, puisque par définition, mis à part maintenant le nouveau point d'ancrage qu'on va voir, mais l'or, en tout cas, pour l'instant, dans cette période de temps, ne peut que continuer. »
Et ça ne veut pas dire que l'or monte, ça veut dire que c'est le marché obligataire qui baisse. Les gens me disent « L'or est beaucoup monté », je leur dis « Que dalle, un gramme d'or, ça vaut toujours un gramme d'or. » Si vous voulez, si vous regardez, ça paraît curieux, j'ai lu un article assez rigolo, qui disait quel était le prix d'une vache. Le prix d'une vache, tu les prends au travers du temps en Europe depuis quasiment l'Empire romain, c'est toujours le même poids d'or, parce qu'il n'y a pas de gain de productivité dans une vache.
Voilà, c'est important ce que tu dis, parce que ça veut dire qu'à partir du moment où nous avons analysé que nous étions dans un système instable, les notions de réserve de valeur que vous pouviez avoir par le passé n'ont plus lieu d'être. Vous êtes dans un monde qui est passé en disruption, et le prix de valeur d'une vache, ça va être une vache et vous devrez la payer ce qu'on vous en demande, parce qu'on rentre dans un système d'offre et de demande où en réalité les retours à la moyenne que vous aviez par le passé n'ont plus lieu d'être, et vous allez rentrer dans quelque chose qui va véritablement faire que les réserves de valeur,
la valeur, si on vous dit, si vous voulez, le prix par exemple, normalement il est fixé avec quelque chose qui est censé garder sa valeur, la monnaie. Mais si, aujourd'hui, s'il y a de l'inflation, ben le prix pour ce que vous achetez aujourd'hui n'a peut-être rien à voir avec le prix de ce que vous le paierez demain. Donc vous aurez tendance, si vous avez besoin de quelque chose à acheter aujourd'hui, ça veut dire qu'aujourd'hui, il commence à y avoir une bonne raison de faire des stocks. Puisque si tu t'achètes des stocks de cuivre ou d'aluminium, tu te dis, comme ça peut que monter, bah, je fais des stocks et ça me coûtera toujours moins cher que de garder de l'argent en cash. Quoi, tu vois ce que je veux dire? Donc, d'un seul coup, le rapport au temps change, le rapport aux investissements non rentables change. Tu vois, tu te dis, mais ça marche plus. Quoi. Le système ne fonctionne plus. Donc, il y a des tas de coûts adjoints qui se mettent dans le système. C'est idiot.
Alors, on détermine que nous sommes dans un système maintenant qui est instable. Essayons de réfléchir à ce qui pourrait être l'émergence d'un nouveau point d'ancrage. Alors, pour cela, on va essayer de réfléchir maintenant à ce qui a eu été par le passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par le temps? Jusqu'en 1914, on avait la guilde britannique qui déterminait quelque part l'ancrage mondial. On a eu le déclenchement de la Première Guerre mondiale et à ce moment-là, le guilde a perdu son contrôle jusqu'à...
Parce qu'il y a eu une guerre qui l'a ruiné.
Voilà. Et ça a survécu tant bien que mal jusqu'à la crise du canal de Suez en 56.
Oui.
Et là,
on s'est rendu compte que l'Angleterre n'était plus la puissance dominante.
Donc là, on rentre dans un monde, à ce moment-là, de 1918 à 1945, où l'or règne plus ou moins en maître, parce que les États-Unis tardent à s'imposer, ils ne comprennent pas vraiment, en sortant eux-mêmes d'une crise économique qui avait été d'ampleur.
Mais qui avait été créée par ça, qui avait été créée par leur refus de prendre en main le monde. C'est-à-dire qu'ils ont décidé, par exemple...
Ils étaient isolationnistes et protectionnistes à cause de Hoover à l'époque.
Oui, et donc de Roosevelt. Il a dévalué le dollar en 1934. C'est-à-dire que tout le monde voulait avoir de l'or.
Oui.
La dévaluation Poincaré, la dévaluation Roosevelt. Donc tout le monde avait de l'or. Une fois qu'il l'avait, il le gardait. Donc...
Ça a entraîné des déflations pas possibles en Allemagne et dans tous les pays adjacents.
Ça fait sauter toutes les banques partout. C'était complètement idiot. Donc personne n'a pris la responsabilité de gérer la liquidité mondiale.
Ensuite, on arrive à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la signature des accords de Bretton Woods et l'obligation du Trésor américain, donc qui devient, comme on vient de le voir, un actif de référence, jusqu'à 73, comme on vient de le voir aussi, où là, ça a cessé de l'être. Donc là, on rentre de 72 à 81 dans une période de flottement, monde instable encore une fois, où l'or a à nouveau régné en maître. Et de 82 à 2000, là c'est le Bund, comme on vient de le voir tout à l'heure, qui devient la référence. Ça a cessé de fonctionner quand cette âne de M. Draghi est arrivée en disant quoi qu'il en coûte. Donc là, on arrive dans une autre période où l'or revient sur le devant de la scène par, encore une fois, incompétence des politiques centraux.
Pas par incompétence, par destruction volontaire de la monnaie. Parce qu'il faut soit faire une guerre... soit gagner les élections de l'année prochaine, tu vois ce que je veux dire?
Et c'est là où on en est encore aujourd'hui. Là, ça fait 10 ans, depuis 2012, d'où le fait que l'or performe bien aussi.
Très bien performé, mais par contre, il y a autre chose qui est en train de sortir, c'est justement la monnaie chinoise.
Alors, justement, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est important dans un monde de création d'être une superpuissance industrielle?
C'est-à-dire que parce qu'il faut regarder... La livre sterling a été la monnaie mondiale quand l'industrie britannique était l'industrie mondiale, la plus forte. Puis c'est passé au dollar quand ça a été l'industrie américaine. Puis c'est passé à l'Allemagne quand ça a été nécessaire, tu vois ce que je veux dire. Et maintenant, c'est en train d'arriver à la Chine. Mais pourquoi? Parce que si tu as la meilleure industrie mondiale, tu as automatiquement des comptes courants excédentaires. C'est-à-dire que tu développes une épargne très forte et c'est toi qui ensuite, en prenant ton épargne que tu as gagnée sur les autres, qui va amener, c'est en investissant chez les autres que tu croiras à la croissance chez les autres. Donc, en quelque sorte, la monnaie mondiale du moment, c'est toujours celle qui est à une position créditrice vis-à-vis du reste du monde.
Voilà. Attends. Alors... l'autre question qui est aussi importante dans la qualification d'une superpuissance industrielle, c'est tragiquement Erwin Rommel qui en a parlé, et au moment du débarquement en Normandie, qui a dit le souci, c'est qu'un de nos chars Panzer vaut 4 de leur char Sherman. Malheureusement, les Américains en alignent toujours 5. Donc, et c'est ce qu'on a vu dans le début des guerres en Ukraine et ainsi de suite, c'est que quelquefois, vous avez des changements stratégiques et véritablement, le pays qui va gagner, c'est celui qui pourra faire le plus de drones. On arrive aujourd'hui un peu dans ça. Et c'est une question qu'on se pose avec les États-Unis versus la Chine. C'est qui aujourd'hui est capable d'avoir les moyens de production
Surtout, on a très bien vu les États-Unis. Ils ont fait, par exemple, ils ont 12 porte-avions. Ils sont les seuls. Et ces 12 porte-avions coûtent quelques milliards de dollars à faire chacun des porte-avions. Puis autour des porte-avions, tu dois mettre des trucs, des machins pour protéger le porte-avions, de façon à ce qu'ils soient protégés au moins dans un rayon de 300 km autour du porte-avions. Donc ça donnait un avantage considérable aux États-Unis parce qu'ils étaient les seuls à pouvoir le faire. Mais maintenant, tu te rends compte que les porte-avions, ils peuvent être descendus par un drone ou par une série de drones. Donc, cette perte de puissance des États-Unis va de pair avec une perte militaire parce que ils sont plus dominants militairement. Mmh. Et ce qu'on a beaucoup expliqué ici aussi, c'est qu'on a dit, puisque maintenant les voies maritimes redeviennent dangereuses, la piraterie va revenir, c'est ce que je viens de dire, automatiquement maintenant ça va passer par la terre. Mmh. Et donc c'est l'émergence de l'Asie, et c'est vrai de ce dont on apparaît souvent, du triangle Moscou-Pékin-Delhi, et c'est là où tout va se passer. Et ils sont en train de se networker, comme on dit, dans tous les sens. Donc, tu vois bien que ce basculement, c'est un basculement de monnaie, de pouvoir militaire, de façon de transporter. Et on voit bien que c'est le but de mes deux derniers livres, c'est d'expliquer que tout va se centrer maintenant dans ce qu'on appelle le cercle de Valéry Pieris. Et ce qui est très intéressant, c'est que si tu prends les monnaies de Valéry Pieris, elles sont toutes en train de se stabiliser dans un système stable vis-à-vis de la monnaie chinoise. Donc, notre système européen, américain-européen, il est en train de devenir, il est devenu instable complètement, il ne marche plus. Et eux, ils sont en train de faire sortir un système stable. J'ai jamais assisté, tu vois, à deux systèmes en même temps, quoi. Oui. C'est la première fois que ça se produit.
Alors, autre chose aussi qui est quand même une question importante, si on vit aujourd'hui dans un monde qui est dominé par la technologie et que la capacité à déplacer, à contrôler les données est véritablement ce qui constitue le cœur du système, véritablement là où il y a le gruyère, quoi. Est-ce que c'est si important que ça, dans ce nouveau monde, la capacité à produire des biens de production? Qu'on n'a pas changé d'échelle industrielle?
Tu as changé, certes, mais si tu vois, par exemple, notre industrie automobile, qui emploie des centaines de milliers de personnes aux États-Unis, en Europe, etc., elle est en train de se faire bouffer toute crue par l'industrie. Donc, oui, il y a l'information qui reste importante, mais aussi, il faut amener à bouffer aux gens. Et comme on l'a dit souvent ici aussi, compte tenu de ce qui se passe, si on a un vilain El Niño plus ça te fait une belle jambe de savoir que t'es dominant dans l'information si t'as rien à bouffer, quoi. Tu vois, je veux dire, donc il y a aussi ça, cet aspect de l'économie réelle. Là, on a fait une espèce d'économie virtuelle. Mais on voit très bien, par exemple, que le niveau de vie aux États-Unis, en Europe, baisse des gens les plus défavorisés, alors qu'ils montent très fort en Asie.
Autre chose aussi qu'il faut quand même considérer, c'est si tu dois analyser ce qu'est ce nouveau système, c'est qu'il est relativement instable. Parce que on regarde, par exemple, les créateurs de logiciels. Il y a encore un an, on nous expliquait que tout était centré autour d'eux. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas avec le développement de l'IA. Donc, en fait, la création destructrice est extrêmement violente dans ce milieu, ce qui veut dire que quand, en tant qu'investisseur boursier, en 6 mois, une situation peut se retourner.
Mais complètement, regarde. Là, je lisais ce matin que les Chinois étaient en train d'inonder le monde de puces de qualité moyenne et bonne, mais pas de très grande. Tu vois ce que je veux dire
Encore une fois, les chars Sherman et les chars...
Voilà, c'est ça. Donc tu te dis, donc je ne sais pas du tout ce que vont faire les semi-conducteurs, mais s'il n'y a que deux fabricants de semi-conducteurs qui montent au monde, ça va laisser les gens un peu... Donc,
Ça, c'est important ce que tu dis, parce que si la Chine nous a appris quelque chose dans sa façon de fonctionner, c'est qu'en général, dès qu'elle a accès à un marché, en relativement peu de temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, elle fait des chaînes de production qui lui permettent qu'il n'y ait plus de rareté. Or, aujourd'hui, le fait que les semi-conducteurs aient pris 27% dans la plupart du temps dans les portefeuilles, c'est lié sur un facteur de rareté.
Rareté, c'est qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Et ça, c'est évidemment le point le plus important. Mais je voulais venir aussi avec quelque chose qui me trouble beaucoup. C'est le phénomène suivant, c'est-à-dire tu dois t'acheter un... T'as perdu ton câble pour mettre ton ordinateur, tu sais, bon, tu dois l'acheter. Bon, ben, en France, tu vas chez Darty, tu l'achètes et puis tu payes 20 euros, j'en sais rien. Mais si t'es en Chine...
C'est long.
En Chine, c'est pas ça du tout. Si t'as besoin d'un câble pour ton ordinateur, t'appelles Alibaba et sous l'heure qui vient, tu as le machin qui t'est livré par une moto à ton bureau et ça coûte 12 euros. Bon. Pourquoi ? Parce que la marge de Darty a disparu. Tu vois, c'est fait directement, clac, clac. Alors, quand tu regardes le chiffre d'affaires, tu vois bien que le chiffre d'affaires a baissé et que les prix ont baissé, donc dans ce qu'on appelle une déflation.
Mais ce qui est la nature même du capitalisme.
Mais là, si tu veux, ça veut... Toi, tu as eu ton truc à 12 euros à la place de l'avoir à 20.
Et tu l'as eu tout de suite.
Et tu l'as eu tout de suite.
Et je ne me suis pas déplacé, je n'ai pas perdu
de
temps.
Et tu t'es pas déplacé, tu t'es pas emmerdé. Donc, tu peux être dans un endroit où tu vas avoir des baisses de prix...
Prévues,
tout à fait obligatoires. Et ce qui disparaît, c'est Darty.
Bah, évidemment, oui.
Ce qui disparaît, c'est Darty. Et donc, à ce moment-là, le consommateur final est gagnant. Il y a les gars qui bossent chez Darty qui sont perdants. Mais, donc, il aura 8 euros à dépenser ailleurs. Tu vois. Donc, tu peux te retrouver avec des gens qui poussent des cris affreux parce que les prix baissent et que les chiffres d'affaires baissent en disant « c'est l'horreur ». Mais peut-être pas.
Mais je vais te dire...
Est-ce que tu comprends ce que
alors,
je veux dire,
c'est,
dire
c'est aussi grâce à ça qu'on n'a pas eu de révolution sociale en France. C'est qu'on a bénéficié, malgré tout, de la croissance que la Chine nous a... potentiel que la Chine nous a permis d'avoir, parce que nos salaires n'ont pas connu de croissance parce qu'il n'y a pas eu de croissance structurelle dans nos pays, mais on a pu collectivement acheter de plus en plus avec, parce qu'en allant chez Decathlon, on pouvait acheter désormais des tennis pas chers, un maillot à 12 euros et ainsi de suite, alors que à ta génération, acheter un maillot, on avait un maillot, un seul, on n'en avait pas 15.
Moi, j'ai beaucoup aimé ça pour les raquettes de tennis à l'époque. Je jouais, c'était des rapports en bois, des raquettes en bois, et si tu veux, j'hésitais à en acheter une, parce que ça coûtait la peau des fesses. Donc j'avais deux raquettes, parce que j'étais... Et encore, il y avait des fabricants de raquettes qui m'enfilaient à l'œil, mais j'en avais que deux. Et, tandis qu'aujourd'hui, tu vas chez Decathlon, une raquette, ça coûte quasiment rien. Donc tu peux, si t'es un gamin qui joue au tennis, tu peux avoir 6 raquettes, arriver l'air malin sur le terrain avec 6 raquettes. Je demande ce que t'en fous d'ailleurs, tu peux jouer qu'avec une à la fois. Mais, donc si tu veux, il y a cet aspect de baisse des prix de tous les biens industriels, commerciaux, etc., sans que des marges soient prises. Et alors tu vois très bien, avenue Victor Hugo, la moitié des boutiques de fringues sont fermées.
Oui. Alors désormais, j'ai l'impression que les gens ne dépensent leur argent que dans des cafés matcha à 8 euros au lait d'avoine. Il n'y a plus que ça qui ouvre.
Et c'est là où tu dépenses les 8 euros que tu as gagnés sur Darty. Quoi. Donc on est dans un monde curieux où, dans le fond, le monde des marchands a été complètement court-circuité. Tu vois, ce qui veut dire que, par exemple, en France, moi je connaissais des familles de notaires et tout, ils avaient... 50, 60, 100 boutiques dont ils louaient les murs, tu vois, ça leur faisait une bonne rente tranquille. Mais aujourd'hui, les murs d'une boutique, ça vaut que dalle. Donc, tu as aussi des baisses d'actifs qui étaient basées sur l'inefficacité du système précédent. Et là, ça va être considérable, parce qu'il y a tout ce qui est l'immobilier et tout va en prendre plein la tête pour pas un rond, quoi.
Alors, si on réfléchit un peu sur le long terme, dans une perspective de, on recherche notre nouveau système stable. On a vu que les obligations d'État américaines ne permettaient plus cette stabilité, la Bundesbank n'est plus. Donc, si on regarde, on se rend compte que les obligations en renminbi, donc les obligations d'État chinoises, ont superperformé les autres grands marchés obligataires depuis le début de l'année. Elles ont superperformé au cours des 12 derniers mois, des 3 dernières années, des 5 dernières années, depuis le début de la décennie et au cours des 10 dernières années. Donc, on se retrouve en réalité, si on regarde, avec des obligations chinoises qui font très bien. Alors, je vous arrête tout de suite. On n'est pas payé par le gouvernement chinois. On aimerait. On s'en fout complètement. On observe. Hein. Moi, vous faites absolument ce que vous voulez. Et je suis tout à fait d'accord que le système chinois est un système politique qui n'est peut-être pas ce qu'on fait de mieux en termes de démocratie. Mais je regarde juste les obligations d'État. Moi, je suis pas là pour juger.
Mais en même temps, une vieille dame peut sortir de chez elle et se promener à 6h du soir. Ma soeur s'est fait attaquer devant le Bon Marché. Devant le marché, elle s'est fait casser la gueule par deux petits voyous.
Elle est noire sur toute la face parce que c'est une dame qui a... C'est ta sœur, elle a quel âge ? Elle a 86 ans. Voilà. Donc aujourd'hui, on est dans un monde où ma tante de 86 ans, journée avec son chien...
Devant
le Bon Marché, qui est quand même... on n'est pas Gare du Nord à 23h, on est en Bon Marché un soir à 17h, ma tante de 86 ans se fait agresser en plein Paris. Donc je vous demande quel est le système stable, quel est le système instable. Moi je ne juge pas les systèmes
ce que tu veux dire, un système instable financièrement tend à devenir instable politiquement parce que ça fait monter...
Les crétins
les crétins d'un côté et de l'autre côté les gens qui disent...
Les pirates, ça revient à ce que disait Xavier Refaire, c'est des systèmes de piraterie. Les systèmes instables font tout de suite revenir les systèmes de piraterie. Et donc, on se retrouve aujourd'hui en plein Paris avec des gamins qui arrachent des sacs à des dames. C'était même pas un sac, c'était un collier. Elle portait un collier de sa fille de création. Et on lui a arraché son collier en or avec des médailles en pleine ville. Voilà.
Et donc, c'est pas très normal. Donc, encore une fois... la monnaie, comme le disait le Christ, vous savez, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, qui avait sur la monnaie, c'était César. La monnaie, c'est César, c'est-à-dire c'est l'État. Et quand l'État ne remplit plus son rôle, ses rôles, si j'ose dire, régaliens, de maintien de l'ordre, c'est curieux, mais ça coïncide souvent à un moment où la monnaie ne vaut plus rien non plus, parce qu'il file de la monnaie à des tas de gens pour essayer d'acheter des voix ou j'en sais rien. Donc, quand le franc français disparaît, ça veut dire que derrière cette disparition du franc français, il y a une volonté politique par un certain nombre de gens en France que la France disparaisse. Tout ça, c'est lié, c'est de façon très profonde.
Je pense que, de toute façon, leur grande idée, la grande idée des escrocs qui nous gouvernent du top 1%, c'est quand même de nous amener vers un fédéralisme européen, dont Macron serait le président-chef.
Donc, je ne sais pas qui il sera, mais on le voit très bien. Là, maintenant, la Commission européenne est en train d'essayer de discuter, de voir s'il ne faudrait pas mettre un impôt sur le capital partout en Europe. Des exit taxes partout en Europe, etc. Mais si je peux me permettre, dans les traités européens, la question des impôts n'est en aucune façon du droit de la Commission. Elle n'a pas le droit de lever des impôts. C'est dans les textes. Je sais bien qu'elle n'avait pas. La Banque centrale n'avait pas le droit d'intervenir. Ils l'ont fait quand même. Donc on voit bien que derrière, il y a une espèce de coup d'État permanent pour continuer à foutre en l'air les monnaies et à taxer ceux qui réussissent et à empêcher l'ordre de régner. Donc tout ça est un peu curieux parce que c'est quand vous regardez les objectifs de l'euro tels qu'ils nous avaient été annoncés par M. Attali et tous ces génies, on est arrivé exactement au résultat, mais inverse de tout ce qu'on avait souhaité.
Alors, de son côté, la Chine, et on l'a vu dans pas mal de nos émissions, a tenté d'organiser un monde stable autour d'elle en indexant quelque part, en créant un serpent monétaire avec beaucoup de pays adjacents, en leur disant, voilà, on ne va plus se référer au dollar américain comme étant notre étalon de valeur. Nous, en tant que Chine, avec le renminbi, on vous indexe quelque part vos contrats. Et ça s'est accéléré avec la sortie de la Russie de SWIFT, puisque désormais, même la Russie se dit, mais après tout, pourquoi doit-on passer par le système américain? Car quand les États-Unis compensent avec SWIFT ou avec n'importe quel système, il faut savoir que la CIA, dans l'instant, est au courant.
C'est-à-dire la CIA, que... mais en plus, ils peuvent ensuite vous foutre des amendes pas possibles, comme ils l'ont foutu à la
Parce que vous avez une extraterritorialité.
À la BNP, oui.
Voilà, une extraterritorialité du dollar américain qui, à partir du moment où il légifère le contrat, a un droit de regard. Et donc, quelque part, vous avez le gendarme américain qui, à n'importe quel instant, peut arriver dans votre transaction, ce qui n'est pas forcément normal. Et les Asiatiques et tout le continent de Valérie Pieris, de plus en plus, se disent, écoutez, vous, si ça fait rien à personne, on aimerait bien que les Américains soient pas partis au contrat.
Ce que font les Chinois qui sont pas bêtes, c'est que ils prêtent de l'argent avec des accords de swap, c'est-à-dire que la Chine prête, je sais pas, $1 milliard à l'Indonésie en lui donnant l'équivalent d'$1 milliard en monnaie chinoise, et puis l'Indonésie prête l'équivalent d'$1 milliard à la Chine pour acheter du charbon ou j'en sais rien en Indonésie, et donc personne ne passe par le dollar, puisqu'on passe par les monnaies locales pour faire le commerce. Ce qui veut dire qu'à terme, si j'ai raison, les grandes banques internationales du style Citicorp, qui jouaient sur justement ces transactions qui devaient passer en dollars, ben, elles n'ont plus rien à faire, elles sont foutues. Les banques locales, il faut acheter HSBC, si j'ose dire, mais il faut vendre Citicorp.
Est-ce que tu penses, dans ce monde, donc on a déterminé que l'Europe était incertaine et où les États-Unis l'étaient devenus, puisque plus personne va acheter des obligations d'État américaines dans de pays en guerre, on sait que les États sont en deuil, que les obligations d'État chinoises peuvent devenir le nouveau point d'ancrage de ce monde et être le seul soleil?
Oui, ça peut le devenir. Alors, ce que disent les Chinois, c'est, on me dit, la Chine peut pas être une monnaie de réserve parce qu'elle n'a pas son compte capital qui est ouvert. C'est-à-dire que tu ne peux pas acheter et vendre des actions, des sociétés en Chine. Tu sais, tu es contrôlé par l'État, etc. Bon. Et ce que dit la Chine, c'est que vous pouvez faire vendre des exportations, etc. Mais si vous avez trop de yuan, donc de monnaie chinoise, si vous avez trop de renminbi, ce que vous pouvez faire si vous en avez trop, c'est vous nous les ramenez à la banque centrale et je vous donne la contre-valeur en or. Donc, ils tournent...
As good as gold.
As good as gold. Ils tournent autour de... OK, vous avez trop de yuan, vous savez pas quoi en faire, ben...
Ce qui était, rappelons-le, le système avant Nixon aux États-Unis.
Qui était le système de la livre sterling.
Oui. Pour créer une monnaie de réserve, il y avait au départ une indexation...
La convertibilité totale sur l'or. Et aujourd'hui, les Chinois, ils te disent... Et ils sont en train de développer aussi un marché à terme du pétrole à Shanghai qui est réglé en monnaie chinoise. C'est-à-dire qu'ils te disent, si vous avez trop de renminbi, bah tiens, si vous voulez, vous pouvez acheter du pétrole qui sera vendu par l'Arabie Saoudite en monnaie chinoise. Donc tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'ils sont en train de mettre au point un système parallèle mais sans ouvrir leur compte capital, parce qu'ils sont bien rendus compte que depuis 1945, tu vois, quand les pays asiatiques ont été attaqués en 1998-99, là, eh bien, ça a permis quand même à toute une série de grandes banques d'affaires américaines d'acheter des actifs pas chers du tout dans ces pays asiatiques quand il y a eu la crise, quoi. Tu vois, c'est... Donc, quand t'as un pays qui a son compte capital ouvert, si tu l'attaques à un moment où il a besoin d'aller au FMI, donc il est. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que là, les Chinois disent non, ça, vous ne pourrez pas nous attaquer, non. Donc, ils ne sont pas bêtes.
Alors, il y a autre chose sur laquelle j'aimerais revenir, et si vous n'avez pas vu l'émission avec Louis-Vincent Gave, mon frère, le fils de Charles, je vous invite à aller la regarder. C'est ce point très intéressant où beaucoup de gens disent oui, mais en définitive, la mondialisation est finie, on est allé trop loin. Non. Ce qui est fini, c'est l'occidentalisation.
Oui. Et c'est fini, c'est la dominance monétaire.
C'est la dominance monétaire et financière et morale, quelque part, et intellectuelle, dans une certaine mesure, de nos pays occidentaux. C'est fini. Il faut peut-être commencer à accepter, même si ça peut nous faire mal au cœur, de travailler autour du concept que possiblement le nouveau soleil de par lequel une démocratie, en tout cas une stabilité va émerger, peut-être pas une démocratie mais en tout cas une stabilité, pourrait être la Chine. Et si le lecteur, l'auditeur se trouve prêt à accepter cela aujourd'hui, on peut peut-être réfléchir autour du fait que l'obligation chinoise va constituer la réserve de valeur pour le temps long des temps à venir.
Oui, alors ce qui est intéressant...
Et c'est un fondamental très important.
Très important. Mais ce qui est très important, c'est de dire, dès le moment où la stabilité revient dans le système, il y a plein de choses à faire dans le système qui sont plus intéressantes que les obligations chinoises. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que dès que je l'ai, j'en ai plus besoin.
Mais ça implique aussi de concevoir qu'il va y avoir deux mondes coexistants, l'un stable qui serait l'Asie et les marchés émergents, et l'autre instable, l'OCDE, profondément quelque part inflationniste désormais,
endetté jusqu'au cou.
Endetté jusqu'au cou, voilà, avec en plus lance des guerres, ce qui est toujours profondément inflationniste, et profondément contre les obligations, donc sans possibilité de réserve de valeur. Donc à part, encore une fois, des euthanasies du rentier fortes pour essayer d'avoir des transferts de richesses de l'un à l'autre, on ne voit pas véritablement d'où pourrait émerger dans ce monde instable une possible création de valeur.
Alors, elle se produira, mais encore une fois, par les sociétés de chez nous, les Air Liquide, les Schneider et tout, et dont les prix seront, dont le cours sera déterminé par l'outil stable là-bas. Si tu regardes, par exemple, les valeurs industrielles européennes et que tu les compares au marché obligataire chinois en rentabilité totale, tu te vois très bien que maintenant, c'est autour d'une horizontale. Il y a des moments où elles sont chères, des moments où elles sont pas chères. Donc, elles sont en train de se pricer, de trouver leur prix, leur cours, non plus sur le taux français, les taux américains, mais sur la monnaie chinoise et les taux chinois. Et ça, ça se voit déjà. Donc, on voit bien que toute la partie création de valeur, action, etc., dérive déjà pour trouver sa valeur vers le monde chinois. C'est la partie obligataire qui, chez nous, va être dans un état absolument épouvantable parce qu'elle se raccroche à rien du tout et qu'on ne produit plus rien.
Et alors, autre chose, c'est que pour vous, les auditeurs, ça va être un véritable déchirement parce que ça fait 50 ans qu'on vous a expliqué que la Chine était un monde profondément instable et profondément inflationniste. Or, aujourd'hui, ça va devenir l'inverse puisque ils commencent, en Chine en tout cas, à laisser monter leur monnaie, ce qui veut dire qu'on va... ils avaient exporté avant le...
C'est comme ça qu'ils ont fait l'excédent, c'est comme ça qu'ils sont devenus concurrentiels.
Et nous, on va devenir le monde profondément instable et inflationniste à notre tour.
Oui, comme l'a été l'Angleterre de 1945 jusqu'à l'arrivée de Mme Thatcher. Quoi. C'est-à-dire que là, l'Angleterre, il y avait 17% d'inflation, il y avait des contrôles d'échange, c'était épouvantable. Quoi. Donc,
Alors... Après, dans l'idée de marché émergent, on voit aussi l'Amérique latine qui aujourd'hui se démarque car aussi les valeurs proposées sont incontestablement plus hautes que les autres marchés obligataires. Ça reste quand même pas évident pour le quidam moyen d'aller chercher aujourd'hui, en tout cas le marché obligataire de brésilien.
On avait fait une étude sur les obligations indexées brésiliennes qu'il faudra peut-être que vous alliez rechercher parce que c'est peut-être quelque chose qu'il faut avoir. Et donc, nous, comment on a deux choses à faire, si vous voulez. Ce qu'on essaye de faire, je ne sais pas si on y arrive, mais un, c'est de vous prévenir de ce qui se passe d'un point de vue global dans l'Institut des Libertés. C'est ce qu'on vient de faire avec cette émission. Et deux, c'est d'essayer de vous investir à l'Université de l'Épargne. Et là, c'est extrêmement difficile parce que ce qui est faisable pour des grandes institutions n'est pas toujours faisable pour le...
Pour le quidam moyen.
Pour le quidam moyen, par exemple, acheter des obligations indiennes, c'est la croix et la bannière. Acheter des obligations en Asie, en Amérique latine, c'est la croix et la bannière, c'est pas facile. Donc on essaie de trouver une espèce de cote mal taillée qui sera à la fois là, qui réconcilie les deux. Mais cette réunion d'aujourd'hui était importante parce que c'était pour vous dire, il faut que vous vous concentriez sur cette notion de stabilité et d'instabilité. Investir dans des monnaies instables, c'est de la folie. Vous pouvez investir dans des actions, des pays instables, mais vous ne pouvez pas investir dans les obligations.
Dans une certaine mesure, on se pose la question pour le S&P 500 aussi, est-ce que investir dans un marché d'actions d'un pays instable est si intelligent que ça?
Surtout si le marché ne montre que parce qu'il y a 3 ou 4 valeurs qui montent, tu vois ce que je veux dire.
C'est-à-dire là le marché, si vous décorrélez les semi-conducteurs du S&P, il a rien fait. Hein. Et la question c'est pourquoi.
Et alors il y a un vrai problème qui va se poser là, c'est l'arrivée de la grosse introduction en bourse de notre ami Musk avec son truc. C'est-à-dire que c'est absolument gigantesque et il n'en met que 5% à la disposition du marché. 5%. Le 95%, il le garde pour lui et pour les autres. Ça veut dire que, comme c'est un truc extraordinairement important et qui pourrait marcher, c'est pas certain, mais qui pourrait marcher, ça, le prix de cette action va être tout de suite trop élevé. C'est-à-dire qu'elle va avoir un effet gigantesque sur les indices.
Oui, et comme tout est géré par des ordinateurs...
Voilà, tout le monde va se dire... Donc, aussi bien les ordinateurs vont se dire « je peux pas ne pas en avoir ». Donc, ton frère qui gère son fonds, là, il peut pas avoir plus de 5% dans une valeur, quoi, une seule. Mais là, tu pourras faire 15 ou 20% du Nasdaq, pour ce que j'en sais. Et donc, à ce moment-là, tous les géants vont être absolument massacrés parce que personne ne pourra faire ça.
Et donc, les clients vont appeler en disant « pourquoi j'en ai pas ?»«
Pourquoi j'en ai pas ?» Parce qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde, puisqu'il en a gardé 95% pour lui. Mais donc, je vois arriver une énorme valeur, une énorme manœuvre, où on va nous enfler avec on nous a fait le coup de l'intelligence artificielle, des semi-conducteurs.
Il n'y en aura pas assez pour tout le monde.
Maintenant, Musk, il est en train, et pourtant j'aime beaucoup Musk, hein, mais il est en train de nous préparer un coup.
Par définition, ça va être une énorme bulle de par sa structure, parce qu'en jouant sur l'offre et la demande, tout le monde va arriver en disant j'en veux. Les marchés, comme ils sont avec des indices, vont dire mais pourquoi on n'en a pas. Et le truc va monter, et il va faire 500 fois son prix, sans qu'il y ait aucune raison structurelle par rapport à la valeur.
Il s'introduit à 100 fois le chiffre d'affaires.
Voilà, donc déjà, on a une décorrélation massive. Le truc, si ça monte à 500 fois le chiffre d'affaires, il y a un moment où les gars, il faut quand même un peu réfléchir à ce que vous achetez.
Mais tout le monde achète. À partir du moment où ça monte, vous savez,
c'est les prophéties autoréalisatrices. Hein. Le marché monte parce qu'il monte. Ah bon, il monte, eh ben, il monte.
Donc achetez. Donc tout ça, ça veut dire que, encore une fois, dans un monde instable, la seule façon d'acheter, c'est ce que j'appelle le momentum. Si ça monte, j'achète. Si je vends, si ça baisse, je vends. Dans un monde stable, ce genre de choses, ça arrive pas. C'est corrigé. Donc, le monde instable amène à des bulles.
Ça revient aussi à une réflexion qu'a eu Louis Vincent dans un papier que je vous soumets, parce qu'il écoutait Didier, qui est un ingénieur, parler de la création de l'IA, et il disait c'est très intéressant. Et Louis Vincent disait en rigolant, c'est marrant parce que quand j'avais parlé à Didier il y a 6 ans du Bitcoin et de la création des monnaies alternatives, il disait ah aussi c'est intéressant. Quelque part, les ingénieurs sont paramétrés pour penser...
Schumpeter,
voilà. Alors que, structurellement, les littéraires, qui n'existent plus tellement, alors qu'à l'origine, c'était un petit peu ce qui composait, en Angleterre en tout cas, on allait lire l'histoire, voilà, et donc étudier, et donc on avait une pensée qui était peut-être plus axée sur les valorisations structurelles, on avait une pensée peut-être plus ricardienne. Et donc aujourd'hui, les ingénieurs qui composent les dérivées premières à Londres et ainsi de suite, qui font tous les calculs et aux États-Unis, ont tendance à toujours penser le monde en termes de disruption et ne plus penser le monde en termes de valorisation structurelle. Et ça, c'est peut-être aussi ce qui amène
Par contre, vous trouvez des tas. Si vous êtes un homme de valeur structurelle et tout, vous avez plein de trucs à acheter en Chine qui ne sont pas chers du tout.
Bien sûr, et donc, c'est ce qui se passe.
C'est ce qui se passe. Et donc, ton frère, il est là-bas. Et il n'est pas là, il va taper dans les... Donc, en effet, on voit bien, depuis comme on gagne de l'argent depuis 20 ans sur Schumpeter, les Schumpeteriens sont les rois du monde. Jusqu'au moment où on va prendre une gamelle, et à ce moment-là, ça deviendra... Alors, moi, j'ai connu ça toute ma carrière.
C'est ça le truc, c'est que quand la baleine se retourne et que vous êtes dans le même lit, l'éléphant, vous retrouvez quand même relativement écrasé. Et là, c'est un peu ce qui est en train de se passer. On se demande si l'éléphant ne va pas se retourner. Et là, vous n'avez aucune personne. Et c'est ce qu'on fait dans le portefeuille. Quelquefois, les gens disent, oui, mais Charles, pourquoi vous avez des obligations d'État japonaises? Mais parce que c'est une position...
Quand la baleine se retourne, quand l'éléphant se retourne, c'est le seul truc qui montre.
C'est le seul truc qui montrera. C'est pas tant d'avoir des positions de portefeuille qui gagnent de l'argent sur les 4 positions, c'est aussi quand le marché devient structurellement bearish et qu'on se prend une énorme culotte, d'avoir quelque chose qui, lui, ne bouge pas. Alors, dans son temps, c'était, on l'a vu, les obligations, les bonds, l'or, quelque part, est peut-être volatile aussi dans ces situations, dans des moments terriblement disruptifs.
Parce qu'à ce moment-là, très souvent, les gens vendent ce qu'ils peuvent.
Oui, on ne vend pas ce qu'on doit, on vend ce qu'on peut,
ou sur lequel il y a encore un marché. Donc.
Voilà, donc quelque part, vous vous retrouvez dans des situations en bourse, on se dit, mais pourquoi ça s'abaisse alors que c'est une belle valeur? C'est parce que les gens liquident des positions, parce qu'il leur faut bien des thunes pour régler leur couverture, surtout s'ils ont pris des positions ouvertes.
Ou si d'un seul coup, il y a un grand fonds commun, et que tout le monde dit, bon, j'ai gagné beaucoup d'argent avec, maintenant je veux sortir, ben le gérant, lui, il a besoin de vendre des trucs parce que ben les clients s'en vont, quoi.
Bah oui, bien sûr.
Donc tout ça, donc voilà. Je sais que ça paraît un peu difficile, mais il faut que vous réfléchissiez à cette notion de stabilité, d'instabilité, et dites-vous bien que l'instabilité financière n'est qu'un des signes de l'instabilité de la société dans son ensemble. Donc je dis, quand on me dit que moi j'ai vécu en Chine, je m'ai intéressé, pour les Chinois, le mal affreux, c'est quand une société devient instable. Pour eux, c'est là où il y a les guerres civiles, c'est affreux. Une société stable et qui pas vraiment démocratique, ça ne gêne pas des masses, parce qu'ils ont très peur de la société instable et démocratique. Aujourd'hui, on est dans des sociétés très instables dans nos pays. Moi, je le sens tous les jours, et ça me...
Oui, bah, oui, je pense que quiconque vit en France se dit potentiellement, c'est-à-dire que demain, si je vois un titre en disant il y a une guerre civile qui a commencé dans un côté du territoire, et pourquoi Marseille, je ne serais pas surprise plus que ça.
Personne ne sera. Personne ne sera. Donc, on est dans un état d'instabilité et qu'on retrouve dans tous les domaines. Donc, acheter la monnaie d'un fou furieux, c'est pas une bonne idée.
Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette leçon vous aura intéressé, que vous avez compris cette notion de monde stable et de monde instable pour vos investissements. Si vous voulez aller plus loin, bientôt, on mettra à votre disposition
C'est le même que celui-là, mais voilà. Pour ceux qui ont déjà...
Un peu plus de poils aux pattes.
Ça, c'est quand même un truc où c'est fait pour des investisseurs institutionnels. Donc, voilà. C'est des gens qui sont censés savoir...
Mais déjà, une fois qu'on l'aura traduit en français, ça sera un peu plus... Et puis, tu sais, quelquefois, tu peux repasser, relire, et puis au bout d'un moment, ouais.
Déjà, je rajouterai des choses.
Oui, voilà.
Je l'ai écrit il y a 2 ans, mais déjà, je rajouterai plein de trucs.
Et voilà. Et sinon, pour commencer, ben, n'hésitez pas à vous référer au Cessez de vous faire avoir, qui est déjà une bonne structure mentale pour apprendre à gérer son petit portefeuille tout seul.
Plus de 50 000.
Voilà, avec des petits graphiques, ce genre de choses, ça vous permet. Il est très beau. Je veux dire, c'est mon cousin qui l'a mis en page, Pierre de Taillac, qu'on embrasse. Et honnêtement, ça permet d'avoir. Enfin, on n'a pas besoin de le vendre. Hein, je le dis, c'est vraiment pour vous, parce que encore une fois, dans ce monde d'instabilité. Dans lequel nos retraites ne vont plus être payées, on pense sincèrement que la gestion de votre petite épargne, quel que soit votre pécule, est vraiment une nécessité de liberté, parce que c'est la seule façon que vous allez avoir, parce que je pense qu'ils vont venir chercher nos propriétés immobilières. Et que quelque part, pouvoir avoir des actifs en bourse sera probablement la seule façon de conserver un avoir petit sur l'inflation, puisque l'inflation va être galopante, va revenir. Donc en réel, ça sera la seule façon de conserver un actif, hein, puisque on va perdre en valorisation d'à peu près tout. Et la seule façon de vous constituer une retraite pour vos vieux jours, parce que mon Dieu, telle est la vie. Moi, je suis persuadée que j'aurai pas de retraite, voilà, dans le système. Voilà, mais écoutez, sur ces bonnes paroles, merci encore de nous avoir suivis. On vous dit probablement à bientôt pour de nouvelles aventures et on vous embrasse. Merci.